Oui, j'aurais une question. La Robertso, c'est quand même un site Céveso. Comment l'Europe a pu, le Conseil de l'Europe a pu accepter ce genre de projet?
Alors, c'est pas le Conseil de l'Europe, c'est le Parlement. Ouais, enfin, c'est la Commission. Bah, écoutez, j'en sais pas plus que vous. Y a-t-il un député européen dans la salle qui pourrait répondre? Ah oui, bah attends, le monsieur, et puis après. Oui.
Charles Frey, je suis géologue de formation. Je suis dans le conseil d'administration d'Alsace Nature Bas-Rhin. Et effectivement, ces projets géothermiques sur Strasbourg ont déjà occasionné un certain nombre de débats internes. La position qui est prise actuellement par Alsace Nature, c'est de dire le mois prochain, ces projets vont être présentés à l'enquête publique. On pourra donc poser un certain nombre de questions. On aura tous les documents qui seront présentés et on pourra, à partir de là, se faire une idée précise de ce qui est prévu. Donc, je crois que ce soir, l'ADIR a fait cette réunion publique. Donc, c'est très bien d'informer le public par rapport à des projets. Je regrette toutefois que, si on fait une réunion publique, je crois qu'il faut être objectif. Objectif dans les différents sens. Et par rapport à la géothermie profonde, je crois qu'il ne faut pas seulement citer les échecs. Il y en a eu, vous avez cité Bâle, il y a eu des problèmes à Landau aussi. Je ne parle pas de l'Orvillère parce que ce n'est pas tout à fait la même échelle et le même problème. Il faut également parler des projets qui fonctionnent. En Allemagne, il y a plusieurs dizaines de projets de ce type géothermie profonde qui fonctionnent depuis pas mal d'années, et notamment à Munich. À Munich, il y a des projets au plein centre-ville et la ville de Munich a décidé que d'ici 2040, toute la ville sera chauffée par géothermie profonde. Donc il me semble que, d'après ce que je sais, c'est que la société Fonroche a organisé récemment une visite à Munich. Les associations ont été invitées, Alsace Nature a été invitée, différentes associations ont été invitées. Je sais aussi que l'association ADIR a refusé d'aller...
Je voudrais quand même vous interrompre parce que ça suffit. Moi.
Je m'exprime. Je crois que ce que j'ai dit, c'est qu'il faut être objectif dans tous les sens. Il faut attendre. Je comprends qu'il y a des craintes au niveau de la population par rapport à certains projets, mais il faut quand même aussi remettre un peu les choses dans leur contexte. Et il y a eu un certain nombre d'amalgames, notamment au début, par rapport à Sulzforet, par rapport à Rittershoffen. Je rappelle que Rittershoffen, effectivement, c'est du même type que les forages qui doivent être faits sur Strasbourg. Donc voilà, je souhaite simplement que si on organise déjà une réunion publique, qu'on informe les gens honnêtement et objectivement.
Voilà, je vais répondre à monsieur. Non, je réponds à monsieur, s'il vous plaît, je vais répondre techniquement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi répondre. Monsieur, nous nous sommes rencontrés à une réunion que vous aviez organisée avec Fonroche. Vous êtes employé par Fonroche sur un certain nombre de dossiers. Deuxièmement, je doute fortement qu'Alsace Nature vous ait missionné pour venir nous raconter ça. Troisièmement, les amalgames dont vous parlez, vous en êtes le champion. À Munich, c'est exactement comme dans le bassin parisien, il n'y a aucune stimulation. À Munich, c'est un bassin gorgé d'eau, où il n'y a pas de problème. Les expériences qui ont été citées en Allemagne, dans la région de Munich, sont des projets qui ne sont pas aussi merveilleux que vous voulez bien le dire. Fonroche nous a invités à y aller les voir. Nous n'avons jamais refusé d'y aller. Nous avons simplement demandé quel projet allait être visité et quelles étaient les personnes qui étaient invitées avec nous. Je crois savoir que certaines personnes sont allées visiter Unterhaching. Unterhaching coûte à la régie municipale de la ville 4 millions par an, parce que l'électricité n'est pas produite comme elle l'était prévue. C'est principalement un réseau de chaleur et on n'arrive pas à rentabiliser le projet. Donc les amalgames dont vous faites mention, ça m'étonne beaucoup, mais j'ai cité dès le départ un certain nombre de gens qui réalisent ces amalgames et qui essayent de tromper le public. Je doute fort, en plus, vous avez parlé au nom d'Alsace Nature, comme je suis aussi membre de commission Alsace Nature, je doute fort que vous ayez été missionné par le président pour nous dire ce que vous venez de dire ce soir. Yves Le Tallec a demandé la parole. Oui, après.
Bonsoir, merci beaucoup, messieurs, dames. Alors, je suis extraordinairement étonné par l'échange qui vient d'avoir lieu, parce que je pense que ce qui nous a été, et je voulais t'en remercier, Jean-Daniel, tu nous as fait une réunion ce soir d'information de très haut niveau, didactique, clair, simple, avec naturellement les orientations de ce que tu ressens concernant ce projet, mais aussi avec un souci, quelque part, d'objectivité. Et simplement, tu as souhaité, avec la dire, attirer l'attention des populations, des riverains, sur un certain nombre de problèmes qui se posaient. Alors, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un connaisseur comme Jean-Daniel Brown, je ne pourrais pas dire tout ce qu'il a dit. Je voudrais simplement dire que quand j'ai appris qu'on allait initier des forages en plein centre du port au pétrole de la zone Seveso de la Robertso, j'ai littéralement grimpé au plafond. C'est quelque chose de totalement inadmissible. Il y a trop d'aléas, il y a trop d'imprécisions, il y a trop d'inconnus. Alors, la géothermie profonde, pourquoi pas? Moi, je lui parais que c'est une source d'énergie. Alors, il faut 200 ans pour renouveler la chaleur. Bon, mais pendant 30 ans, ça peut apporter effectivement du bien, les énergies renouvelables, les éoliennes. Moi, je suis pour tout ça. Mais quand on me dit qu'on va mettre au milieu des cuves à pétrole, de ce port à pétrole pour lequel on inquiète nos citoyens, nos riverains, on n'a même plus le droit d'aller tout à fait librement à la forêt de la Robertso, parce que passer à côté des cuves, c'est déjà quelque chose de dangereux, paraît-il. Alors moi je veux bien, mais alors à ce moment-là, il faut que quelque part, une autorité quelconque, et chère Madame Colère, vous êtes ici, vous êtes une adjointe de la ville, vous êtes une adjointe respectée, vous êtes en charge de l'environnement, vous êtes en charge également, par là même, des effets qui peuvent se produire au port au pétrole et surtout au port autonome de Strasbourg. Je pense que vous devez avoir quelque part, vous peut-être, vos supérieurs, la présidente, le président, le directeur, vous devez avoir quelque part une autorité suffisante pour interdire que des forages aient lieu à cet endroit-là. Tout le reste après, je ne veux pas dire que c'est du pipeau, mais tout le reste après devient secondaire. Il n'est même pas question de commencer à faire quelque chose là-dessus. Il y a trop d'impondérables, il y a trop d'inconnus, il y a trop de dangers potentiels. Voilà ce que je voulais dire. Je me suis permis d'attirer la presse. Je voulais remercier d'ailleurs Rue 89 d'avoir transmis le message que j'avais déjà écrit. J'ai alerté le préfet de mon côté. Je l'ai interpellé dans une session plénière du Conseil général. J'ai réécrit au commissaire à l'enquête publique. On ne peut pas faire plus. Mais croyez bien que sur ce sujet-là, je vous demande tous de suivre ceux qui défendent cette option d'interdiction de géothermie profonde au centre même du port de la Robertso. Merci.
Merci. L'un après l'autre. L'un après l'autre. Attendez. Après, oui.
Bonsoir. Donc moi, je viens ici en tant que citoyenne pour m'informer aussi par rapport à ce projet de géothermie profonde sur le site du port au pétrole. Vous m'avez angoissée, véritablement angoissée. C'est vrai qu'on a une image très positive de la géothermie profonde par rapport à tout ce que cela peut apporter en termes d'énergie renouvelable. Après, la compatibilité avec un site comme le PPRT, effectivement, c'est quelque chose qui interroge. Je voulais vous poser une question, Monsieur Braun. Est-ce que vous avez eu le dossier? Parce que moi, j'ai cherché, je n'ai pas encore eu le dossier. J'ai les avis de l'autorité environnementale, mais...
De quel dossier?
Le dossier technique qui sera...
J'ai le résumé non technique,
le résumé non
puisque
technique.
Le dossier complet n'est pas encore sorti, mais le résumé non technique est... reprend l'ensemble des éléments. Et puis, j'ai un dossier questions-réponses de Fonds Roche. Enfin, j'ai un certain nombre d'éléments. Et tous vont dans le même sens.
Donc, enfin, moi, je suis comme vous pour l'instant. Je suis en quête d'informations, d'éléments techniques. Sachez que là, donc, il y a une phase d'enquête publique, effectivement, qui vise les camions, qui doivent passer.
C'est l'enquête publique autorisant les forages.
Non.
Qui va démarrer en...
Celle qui est actuellement en cours, c'est pour les camions qui doivent passer pour améliorer
alors,
la connaissance du sous-sol,
encore une fois, un amalgame totalement
l'enquête
faux.
Publique.
Non. Les enquêtes publiques qui sont lancées, dont certaines viennent d'être terminées, concernent une géothermie à basse température.
Voilà, c'est pas le site du port au pétrole.
Port au pétrole est bon parce que. Alors, je vais vous donner une explication. En droit français, si l'eau qui remonte est à 150 degrés ou plus, ça relève du droit minier, et c'est les projets qui sont prévus, notamment au port. Si l'eau est seulement à 149 degrés. L'autorisation de forer, selon le droit minier, n'est plus accordée. Et il faut une autre autorisation pour forer avec une eau inférieure à 150 degrés. Et les sociétés Fonds Roche comme Électricité de Strasbourg se sont assurées par ces nouvelles enquêtes, par ces nouveaux droits de recherche, et les enquêtes qui sont en cours ou qui viennent de se terminer, que si jamais l'eau qui remonte n'est pas à 150 degrés, ils pourront quand même faire quelque chose avec. C'est puisqu'il y a deux procédés différents de géothermie. Oui. C'est simplement une assurance.
Oui, enfin, juste pour dire que l'enquête publique par rapport à ce projet n'est pas encore...
Non, elle est prévue début janvier prochain.
Là, il faudra que nous soyons effectivement... tous mobilisés sur la connaissance de ce projet. Et à l'issue de l'enquête, c'est vrai que le maire aura un avis à donner, sachant que l'énergie et la transition énergétique relèvent d'une compétence de la CUS. Mais le maire aura, somme toute, un avis à donner.
Oui, madame Keller. Non, c'est l'État qui autorise les forages.
Oui.
C'est pas la...
Je suis d'accord. Mais il y aura un avis. Oui. Un avis.
Mais l'avis est très simple à donner. Qui c'est qui a donné l'autorisation d'occupation du terrain là où il est à Fonds Roche?
C'est
le port au pétrole, le port autonome. Le port autonome est dirigé et présidé par qui? Par Catherine Trottmann. Donc si la ville ne veut pas que ce forage ait lieu, il suffit de résilier la convention d'occupation des terrains. Non. Il y a quelqu'un là-bas. Là-bas avant. Madame. Oui, allez-y. Après
oui, ce que je voulais vous demander, c'est que moi, je suis pas. J'habite Bichaille, mais j'ai un jardin ouvrier en contrebas de la rue de Rouen. Et je suis étonnée, parce que j'y vais souvent ces derniers temps, j'ai pris du retard dans mon jardin, de voir des dizaines de camions pleins de terre sortir tous les jours d'un terrain qui se trouve juste au bout...
De la rue de l'Afrique.
De la rue de la Carpe Haute.
De la Carpe Haute, oui, exact.
Et je suis dans mon jardin, et ça pollue, ça fait du bruit, ça pue, ça, tout ce qu'on veut, et c'est plein de terre, du matin au soir, ouais, jusqu'à la nuit. J'aimerais savoir si c'est là qu'on creuse.
Non. Ça n'a strictement rien à voir.
C'est Rouen, hein.
Oui, je sais très bien où c'est. C'est effectivement sur ce terrain que doivent avoir lieu les forages. Mais le trafic de terre actuel est un trafic dû à des constructions à des excavations de terrain rue Thierry, dis-moi là en face de chez toi, là le grand truc qu'ils font là.
Enfin, rue c'est rue de Rouen, hein, c'est rue de Rouen. J'ai
oui,
vu
oui,
apparaître
oui, mais
rue de Rouen.
J'ai eu la même observation et j'ai suivi les camions pour voir ce qu'ils...
Et j'ai regardé les camions et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Je suis sortie, j'ai été voir.
Ça n'a rien à voir. C'est un dépôt temporaire de terre et ça n'a rien à voir.
Un dépôt? Mais non, ils les prennent et ils partent avec.
Mais oui, mais ils les ont, il y a quelques temps avant, ils les avaient déposés. Non, mais je connais le dossier, je connais le
alors,
terrain.
Alors, ils ont dû en mettre quelques mètres.
Il y avait des tombereaux, hein. Il y avait des tombereaux entiers avec des tracteurs qui allaient déposer. Un après l'autre, monsieur a demandé avant, monsieur... Non, attends, monsieur d'abord. Après, c'est vous.
Bonsoir à tous. Donc, Jean-Marc Lotz, adjoint au maire à Oberhausbergen. Alors, je voulais saluer la qualité de l'exposé de ce soir. Nous avons, avec notre maire, donc Théo Klump, rencontré l'ES, Géothermie, Fonds Roche, qui nous ont expliqué à quel point leur projet était vraiment merveilleux. On a failli y croire. Heureusement, on vous a. Merci. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement... effectivement, je suis adjoint au maire à Oberhausbergen, mais une petite histoire personnelle. J'ai grandi ici pendant 25 ans et je suis à... Mes parents habitent à 500 mètres de l'endroit où vont se faire 500 mètres du port au pétrole. Donc, voilà, c'est vrai qu'au-delà de l'endroit où ça va se trouver, que ce soit Oberhausbergen, enfin, c'est vraiment à côté avec Bölsheim, au-delà de tous ces problèmes, moi, je souhaiterais qu'on prenne conscience qu'on va chercher des produits et de la chaleur dans des zones qui sont effectivement, comme vous l'avez montré, extrêmement toxiques, qui a des gros problèmes de sismicité, et qu'au milieu de tout ça, on a quand même la plus grande nappe phréatique d'Europe. Et lorsqu'on ne boit, et l'eau qui remonte, elle contient plus de 100 grammes de sel par litre. Donc imaginez tout ce sel qui traverse la nappe phréatique et qui peut très bien un jour la polluer. Donc voilà. Donc battons-nous tous pour faire en sorte que tout ceci ne se fasse pas, notamment en Alsace, parce que nous avons cette magnifique nappe phréatique qu'il faut vraiment préserver. Sur le fond, il faut quand même imaginer qu'on consomme beaucoup plus d'énergie que ce qu'on en produit. Donc il va y avoir une grosse... on devrait tous faire une grosse réflexion sur notre mode de vie et sur la manière dont on consomme cette énergie. Et un jour, il faudra répondre à ces questions. Voilà, je vous remercie.
Attends, après...
Merci d'abord, merci de votre exposé. Je suis François Corneille, j'habite rue Gustave Binger, juste derrière. Il s'avère que je suis aussi professeur de géophysique à l'école de géophysique de Strasbourg et qu'un de mes dadas, c'est la géothermie, qui est quelque chose que j'enseigne à l'école. Je connais très bien le problème de la sismicité induite et c'est vrai qu'il peut y avoir des microsismes. Il faut savoir que j'ai passé toute ma vie à essayer de cartographier les fractures hydrauliques par microsismicité et c'est des tout petits événements et on a beaucoup de mal à le faire. C'est vrai qu'à Bâle, il y a eu des plus gros événements. Ce n'est pas de la fracturation hydraulique, c'est parce que c'est la manière de se passer. Il est difficile d'expliquer en 5 minutes ce que ça passe. J'étais invité à Montbéliard, à un bar des sciences, pour expliquer ce que c'est que la fracturation hydraulique, ce que c'est que la sublimation hydraulique. Je suis président du conseil scientifique de l'ABEX, la géothermie de l'EOST. Et ce que nous avons obtenu auprès de la mairie, c'est qu'il y a des journées d'information. Je ne connais rien du projet de Fonds Roche. Et j'espérais l'apprendre ce soir, je voulais savoir ce qu'ils allaient faire. Je fais partie du conseil scientifique de Soultz, donc je sais bien ce qui s'est passé à Soultz. Je n'ai aucune information sur Fonds Roche et j'aurais bien voulu savoir ce qui allait se passer ici, en particulier parce que j'habite ici. Donc j'ai envie de dire, je crois que la mairie a pris en charge l'idée de faire une séance d'information technique avec les gens qui connaissent ce que c'est que la stimulation. Et je voudrais dire, tenez-vous au courant de ces journées d'information où vous aurez les spécialistes qui vous parleront exactement de ce qu'on fait à Soultz, de ce qu'est Ritterhofen. Je ne connais pas Fonroche, donc je ne suis pas sûr que ce sera ce qui se passera ici. Mais c'est vrai qu'il faut vous informer, la sismicité n'est pas forcément quelque chose de catastrophique. C'est vrai qu'il y a des endroits où il y a eu des magnitudes 6. C'est vrai. Et pourquoi ? Et pourquoi il y a eu la magnitude 6 ? C'est pas en France qu'il y a eu la magnitude 6. Mais je connais un barrage en Inde, j'y étais allé, donc je peux vous en parler. Il y a eu la magnitude 6. À Bâle, il y a eu des magnitudes 3.5. Et je peux vous expliquer pourquoi c'est des 3.5. Et je peux vous dire aussi pourquoi il y a des magnitudes 5 à l'Oklahoma City. Ce n'est pas la fracturation hydraulique, c'est autre chose. Et merci d'avoir rappelé que la pollution par le méthane, ce n'est pas la fracturation hydraulique, c'est les fuites des Kézik. C'est exactement ce que vous avez dit, c'est parce que les Kézik sont mal construits et qu'ils fuient. Et vous avez parlé de Landau, et le problème de Landau, il s'est suivi par tous mes collègues, par imagerie satellitaire, il y a une bulle d'eau, c'est les forages qui a fui. Exactement comme les autres forages. Ils n'ont pas été construits, et c'est vrai qu'il faut avoir des précautions pour suivre ces forages. C'est vrai qu'on sait qu'il y a des forages qui sont faits correctement. C'est vrai que si on ne les fait pas correctement, on a des tas de problèmes. Donc j'allais dire, ce n'est pas moi en 5 minutes qui vais compléter ce que vous avez dit. Ce que je voulais dire, il y a des imprécisions, et c'est normal, hein, c'est un projet qui est un peu difficile, mais il y aura des séances d'information. Moi, j'ai déjà informé mes collègues pour qu'ils aillent à la préfecture, pour qu'on oblige à mettre justement une étude préalable de microsismicité, qu'on sache qu'elle est à zéro et qu'on voit comment on va procéder. Et il y aura une obligation par l'Adrial de mettre des appareils pour surveiller ce qui se passe. Mais n'ayons pas peur a priori, c'est ça ce que je veux dire. Moi, je ne connais pas le forage de Fontroche et je ne veux pas le défendre et je ne sais pas du tout si c'est l'histoire de forage ici. Qu'il y ait des camions qui passent, c'est pour les prospections sismiques. Mais n'ayons pas peur de la géothermie en général, c'est ça ce que je veux dire.
Oui, je vous remercie beaucoup de votre intervention, voilà, mais je voudrais vous dire que si vous n'êtes pas au courant, nous avons rencontré le directeur de l'école et l'observatoire des sciences de la Terre, nous avons rencontré le responsable du LABEX et que pendant environ 2 heures qu'ils nous ont accordé, nous avons pu poser les questions et nous avons eu de nombreuses réponses. Donc nous sommes allés nous informer, je crois, au bon endroit. J'ai posé la question de savoir, par exemple, si sous le site au port au pétrole, il y avait un réservoir d'eau. Monsieur Schmidbull m'a répondu, je ne sais pas. Parce que nous ne savons même pas où Fontroche va creuser. Quand on pose la question à Fontroche, il ne nous répond pas. C'est M. Schmidbull, d'ailleurs, qui a attiré notre attention sur les bactéries qui pouvaient remonter. Donc, une partie non négligeable de mon exposé et de ce que j'ai retenu de... Ah, ben, c'est très bien. Parfait. Donc, je crois que ce que j'ai exposé, je ne l'ai pas inventé. Ce sont des spécialistes. Certainement, certainement. Thierry, tu voulais la parole ? Tu as un micro ?
D'abord, merci à Jean-Daniel Brown pour cet exposé, on dirait, avec Laurence Vaton, qui est vraiment professoral et didactique et pédagogique. Et je voudrais le remercier aussi de m'avoir aidé à comprendre ce qui se passait à la Robertsau lorsque j'ai fait mon interpellation au conseil municipal. Je suis très heureux d'ailleurs que Mme Kohler soit là pour pouvoir en discuter, qu'elle ait peut-être revu un petit peu sa position sur... Parce que j'en ai pris pas mal. Bon. Ceci dit... Non, c'est pas mal. J'ai deux questions. La première, lorsque vous voulez louer un appartement, on vous demande de faire un bilan amiante, un bilan plomb, etc. On est dans un pays où le principe de précaution fait loi. Comment se fait-il que lorsqu'une société inexpérimentée va se lancer dans un site Céveso niveau 7, creuser à l'aventure, qu'il n'y ait pas une autorité, qu'il n'y ait pas un organisme qui puisse faire justement barrage selon ce principe de précaution? Ça, c'est ma première question. Et s'il existe, quel est-il? Deuxième question. Merci. Deuxième question. Jean-Daniel, tu nous as dit que ce projet était là pour 30 ans, qui va coûter 15 millions.
Donc, non, ça... les forages, 15 oui, les millions. Forages, le l'investissement, total, 50 à 60 millions.
Donc, ça fait quand même pratiquement 2 millions par an. Quel est, d'après toi qui es un scientifique... Il y a sûrement quelque part un seuil de rentabilité, on va dire, d'exploitation. Est-ce que les 30 ans vont suffire pour rendre ce projet viable financièrement? Évidemment, je rajouterai qu'au nom de la protection de l'environnement et de la révolution qu'on vit en ce moment au niveau énergétique, je suis d'accord qu'on ne pollue pas l'atmosphère. Mais...
Voilà, tu as la réponse à ta question.
Oui, mais en dehors du problème du coût, quel est le rendement et quel est l'intérêt pour la collectivité?
Ah, pour la collectivité, il est nul. C'est pour la société Fontroche. Attendez, oui, monsieur. Qui c'est qui a demandé la parole après?
Bon, je me présente, Jean-Jacques Bleck, l'ancien président de l'association syndicale de l'Esplanade, qui a tout un chauffage urbain et où on est en procédure avec la CUS sous chauffage urbain depuis une douzaine d'années. Bon. Et en même temps, nous avons obtenu de pouvoir assister à toutes les réunions, le délégataire rencontre de sa gestion. Nous avons eu une réunion récemment avec la CUS et je vous dirai, je vais donc faire un complément à ce que vient de dire monsieur, c'est qu'en fait la CUS avait voulu installer une chaufferie biomasse pour le chauffage urbain de l'Esplanade. Le chauffage urbain de l'Esplanade qui continue parce qu'il chauffe les zoos et que c'est l'Esplanade qui fournit pratiquement toute la chaleur des hospices civils du NHC, du nouvel hôpital civil. Et depuis le Rorschollen, l'usine d'incinération, ils viennent de créer un nouveau réseau qui revient jusqu'à l'ELSO. Et tout leur objectif était d'avoir plus de 50% de chaleur dite propre, car la TVA sur la chaleur basculait de 20% à 5,5. Tout ce qu'on nous proposait à nous, usagers, n'est-ce pas, c'était la différence de TVA. Par contre, Dalkia et les autres exploitaient à leur tarif normal. Bon. Manque de peau. Dalkia, où c'était un truc merveilleux, magnifique, ils investissaient 100 millions d'euros au port du Rhin pour une usine biomasse, n'est-ce pas? Et bien, le groupe Dalkia n'a pas trouvé un cofinanceur parce qu'ils n'ont pas voulu faire l'opération tout seul. Elle est tombée d'elle-même à l'eau maintenant depuis 2 ans. Parce qu'ils n'ont pas trouvé de finisseur et cette chaufferie biomasse ne s'est pas faite. Donc la CUS se retrouve à un point zéro. Et c'est pour ça que je regrette que Mme Bay, qui est la responsable au niveau de la CUS et qui est vice-présidente de la CUS, qui est responsable de tout ce dossier, que M. Foresti, qui est le directeur de ce côté-là, ainsi que son adjoint M. Wilm, ne soit pas venu ce soir parce que je pense que c'était ultra important. Donc, l'objectif de la CUS, parce qu'on a eu une réunion dernièrement, leur objectif, c'est de vouloir faire maintenant un réseau complet et de mutualiser tous les réseaux de chaleur de Strasbourg, y compris celui du Wacken qui est en cours de construction. Celui d'Haute-Pierre rentre dans le giron de la CUS au 1er janvier 2016. Et alors la CUS est partie pour la gloire, n'est-ce pas, en décidant de supprimer la délégation de service public de l'Esplanade. Il l'a résilié. Bon, vous me direz que l'État a bien résilié la société des cotaxes. Donc ils sont pas après. Je ne sais pas qui c'est qui payera les frais de résiliation. Ça, c'est un autre problème. Ça va se discuter. Ça va être les usagers. Et donc, actuellement, l'objectif de la CUS, c'est de faire une mutualisation de tous les réseaux de chaleur. Et comme il faut qu'ils les alimentent avec de la chaleur propre, que vous avez appris que le Rorschollen, on ne sait pas s'il va continuer, parce que maintenant qu'on a trouvé de l'amiante, ils ne savent pas s'ils vont le réparer ou pas. Donc on a construit il y a un an tout un réseau au départ du Rorschollen, et vous savez ce que coûte un réseau, qui est actuellement inexploité, inutilisé, parce que le Rorschollen est arrêté. Et donc tout ça, c'est pour arriver à faire 50% de chaleur propre, pour pouvoir nous faire fournir une chaleur avec une TVA de 5,5. Mais le Rorschollen saute, la chaufferie biomasse a sauté, et donc maintenant, il ne leur reste plus que cette solution. Et donc la CUS va être bornée. Et on aura des gens bornés, des techniciens bornés, qui nous ont dit il y a 15 jours, il y a 3 semaines, parce qu'il y avait une réunion avec Mme Bay, n'est-ce pas, et l'adjoint de l'urbanisme, l'écologiste, et Alain Yund, qui était là, qui a dirigé la réunion, n'est-ce pas, et ils partent pour la gloire, pour faire ça, si vous voulez. Tout ça, c'est pour essayer de réduire. Et ils nous ont dit, n'est-ce pas, il y a 10 ans, quand on a fait la première DSP de l'Esplanade, on ne connaissait pas les dossiers, on ne connaissait pas le chauffage, on ne sait pas comment ça fonctionne, etc. Ils m'ont presque dit que, heureusement, que moi qui bloquais dessus au niveau procédural, etc., heureusement que vous avez aidé à prendre notre métier. Mais ils m'ont dit, maintenant, on connaît notre métier.
Merci beaucoup.
Avec ça, on va pouvoir alimenter tout Strasbourg avec ces 3 forages, etc. Et vous aurez de la chaleur propre et pas chère.
Merci beaucoup.
Donc on aura énormément de mal à les faire plier. Alors maintenant, je peux vous dire une chose, c'est que l'Esplanade va vous suivre.
Merci, monsieur.
Bonjour, monsieur Tribolet, je suis professeur de physique à l'Université de Strasbourg. Juste un petit commentaire, les experts n'y croyaient pas. Je peux vous dire que le seul atome qu'on sait modéliser exactement, c'est l'atome d'hydrogène. Un électron, un proton, donc vous pouvez oublier tout le reste. Donc les experts, terminé, aucune discussion qui tient. En plus, on parle d'un objet que personne est capable de bien définir. Je veux dire, je suis désolé, personne sait les poches de gaz qu'il y a dessous, etc., etc. Donc l'objet n'est pas modélisable, c'est à peu près comme la météo. Vous avez une prévision à 3 jours. Et la seule chose que vous pouvez faire, c'est effectivement a posteriori, à mon avis, monsieur dit, oui, je peux vous expliquer pourquoi c'était 3,5 à Bâle, pourquoi c'était tant et tant. Ben oui, a posteriori, c'est toujours facile. Hein. Fukushima aussi, on peut aussi a posteriori expliquer pourquoi c'était pas possible. Donc voilà, moi je peux vous dire, les experts, voilà, j'y crois pas. J'aimerais juste demander un petit truc, c'est juste comme ça, au point où on en est de la discussion, qui est contre le projet au port au pétrole? Juste lever la main, juste pour voir. Voilà, d'accord. Donc maintenant que tout le monde est d'accord, j'aimerais juste poser la question, monsieur, parce que vous avez dit une chose que j'ai retenue, c'est il y a une solution, il faut résilier ce bail. Donc vous avez parlé aussi d'une enquête publique, donc quel est le lien entre les deux et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Parce que bon, on peut parler pendant des heures, est-ce que leur projet il est super, pas super? Est-ce que leurs experts sont super, pas super? Non, ils sont tous nuls, ils connaissent rien. Donc la conclusion, c'est comment on résilie ce bail, comment on force la mairie, comment, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut dire les socialistes dehors? C'est ça qu'il faut dire? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut dire, monsieur?
Alors,
pour résilier ce bail, pour leur dire au revoir.
La démarche. La démarche première, c'est de se manifester à l'enquête publique. C'est fondamental, même si les enquêtes publiques sont une fiction, il est indispensable de se manifester pour dire votre opposition au projet, si vous êtes opposé au projet. La deuxième solution, la deuxième action, c'est d'aller voir vos conseillers municipaux, d'aller voir les gens qui se présenteront aux élections départementales, je crois que ça s'appelle maintenant, hein, et de leur dire que vous êtes opposés et qu'ils doivent agir pour empêcher ce projet. Il faut se rendre compte que à Kehl, le conseil municipal, à la quasi-unanimité, il y a les Verts qui ont voté contre, le maire qui n'était pas pour, mais qui a suivi la majorité, a porté plainte contre la préfecture de Fribourg qui avait autorisé un forage d'essai. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sous l'action des citoyens et notamment de l'abbaye gegen Tiefengeometrie, dont le représentant est ici, ont obtenu que le conseil municipal de Neuried, pour l'instant, il faut le prendre avec des pincettes, mais ne résilie le bail qui se termine fin 2014. Donc c'est à vous, c'est votre action, c'est l'action de tout le monde qui fera que ce projet se réalisera ou pas.
Ouais. Oui, bonjour. Moi j'avais juste une question à poser. Est-ce que la société Fonroche a été invitée ce soir?
Non.
Et pourquoi pas?
Oui.
Et deuxièmement, je voulais demander au monsieur qui représente Alsace Nature s'il a pensé aussi à la protection du lézard de la Robertsau.
Oui, alors, la société Fonroche, nous ne l'avons pas invitée. J'ai rencontré la société Fonroche au cours de 3 réunions. Donc j'ai posé, dont une réunion entre Jacques Gratécos, la société Fonroche et moi-même, et 2 autres réunions qui étaient une conférence de presse et au préalable une réunion qu'avait organisée le géologue en question. Ils répondent, je vous ai donné les réponses, on ne sait pas ce qu'ils font. Ils répondent une fois l'autre, on ne sait pas ce qu'ils font. Donc ce n'est pas intéressant. Fonroche a une position très claire. Nous sommes les plus beaux et les meilleurs. Nous avons appris de tous les sinistres qu'il y a eu à travers le monde comment est-ce qu'il faut forer. Nous nous sommes associés aux meilleures sociétés allemandes et donc nous, on va faire exactement ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Problème, Fonroche n'a aucune expérience. Les sociétés allemandes, elles ont participé à certains sinistres. Alors, c'est facile de dire, et c'est lénifiant, et tout, à chaque fois, on a eu des réponses lénifiantes, donc ce n'est pas nécessaire de les inviter.
Oui,
rien
bonsoir.
Ne les empêchait de venir parce qu'ils le savaient qu'il y avait réunion ce soir, absolument.
Oui, bonsoir. Je voudrais juste faire un petit calcul sur le projet. Enfin, quand on voit que vous m'avez dit que ça coûte 60 millions, ce projet, pour une puissance de 2,1 mégawatts, si j'enlève les 0,6 mégawatts qu'il faut pour la consommation, on arrive à 1,5 mégawatts. Ce qui nous fait le watt installé à 40 euros. Maintenant, il faut savoir qu'il y a un mois environ, ou deux mois, ou Il y avait un article dans le journal où Eiffage va installer une centrale solaire d'une puissance de 300 mégawatts qui coûte 285 millions. Alors, si je fais le calcul, la puissance du watt installé en photovoltaïque est de 95 centimes. Cherchez l'erreur. D'un côté, on est à 40 centimes et de l'autre côté, on a une énergie propre à 85 centimes. Et on dit que le solaire est cher.
Oui, il y a chaleur en plus. C'est difficile, ce calcul est difficile à établir. Une question là-bas.
Ouais, j'y vais.
Ben, oui. Ben vous pouvez non mais vous pouvez écrire au maire et au président de la CUS, il n'y a aucun souci. Au contraire, chaque action, il faut que ce soit des actions individuelles, parce qu'il faut savoir que, par exemple, si on fait une pétition, les Allemands ont fait des pétitions avec 6000 signatures et ça compte en Allemagne. Si vous ramenez au commissaire enquêteur une pétition avec 6000 signatures, le commissaire enquêteur considère qu'il y a une intervention. Donc, la seule solution, c'est des interventions ponctuelles, individuelles. C'est à vous de voir vos... si vous permettez, on va donner la parole à notre invité allemand.
Bonsoir, mesdames, messieurs. Tout d'abord, je m'excuse pour mon mauvais français. Je suis venu ce soir d'une part d'écouter qu'est-ce qui se passe ici à Strasbourg, quel est le projet de Fonds Roche, qu'est-ce qu'ils font ici, et d'autres points et de vous informer qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre la tiefengeothermie, la géothermie profonde. Je vais vous dire quelques mots sur Munich. Comme M. Braun il a déjà dit, c'est tout à fait quelque chose d'autre qu'ici. À Munich, il y a des falaises, un grand couche, et on n'a pas le problème des séismes, parce que c'est toute une autre structure de la Terre. En plus, on a rencontré les derniers temps des pollutions de l'eau potable, parce qu'il y a des différentes couches de profondeur des plus hauts qui se mélangent. Et voilà, on a le problème que l'actuel maire de Mittelhausbergen a craint pour le moment. Oui, c'est ça. L'autre problème qu'on a, pourquoi les sociétés vont faire des puits pour quelques millions d'euros? Le seul but est de gagner de l'argent. Chez nous, en Allemagne, les kilowattheures est récompensé avec 30 à 35 euros. Et on achète, comme chez vous, la kilowattstunde, l'heure kilowatt à 5 euros. Et en même, on ne sait pas si c'est possible de... Comment, Herr Braun, exactement trainer?
Séparer.
S'ils vont séparer les deux courants. Parce que c'est déjà. il y avait déjà des cas quand ils ont mélangé les deux courants. Pour moi, c'est la question à vous. Qu'est-ce qu'on va faire dans les 50 ans de l'avenir? Qu'est-ce qu'il y avait là? Le type de fourrage, ils ne vont pas rester les 50 ans qui vont venir. Parce que les eaux profondes, avec tous les éléments qu'ils ont là-bas, ils vont détruire le tube, même le béton. On a le problème en Allemagne que les pompes pour l'eau chaude qui transportent l'eau sont échangés tous les 6 mois, parce que l'eau est assez agressive, qu'on n'a pas une possibilité de les construire autrement, qui vont rester plus longs. En plus, avec les tubes de fourrage, ils ne vont pas faire le béton jusqu'à 6000 mètres. Ils vont arrêter à 5000 mètres, peut-être à 1000 mètres, et plus bas, ça ne va pas marcher. Et à Londo, par exemple, il y avait le problème que le tube, au-dessus, le béton. Là où le béton il a arrêté, il y avait le fit,
la fissure.
La fissure. Et pour moi, il y a encore un autre point que je veux vous dire. Il y aura 3 puits à Strasbourg. Il n'y a aucune place dans l'Europe où il y a 3 puits assez...
Plus que 3.
Assez...
Proche.
Et on ne sait pas encore qu'est-ce qui se passe avec le sous-sol. Il y a un 4e ou un 5e chez nous. Il va, aura peut-être un 4e ou 5e en Eurythe. Et avec l'assurance que vous avez déjà dit, les assurances allemandes, ils ne payent pas. Et les sociétés, ils disent qu'il y a des assurances, oui, mais ils n'ont pas vraiment obligé en ce moment de payer parce que les droits mineurs, là, il faut demander à un avocat. Chez nous, il n'est pas fait pour la géothermie, parce que la géothermie est une technique assez nouvelle que ce n'est pas dans les droits des mineurs. Là, il faut faire des avocats. En France,
c'est le droit minier.
Oui.
En France, c'est le cas.
Il y a un autre point que je veux vous dire. À Saint-Gall et à Bâle, il y avait des grands séismes. Et les Suisses, ils ont examiné les derniers cas et ils ont remarqué qu'ils ont chaque fois fait un trou dans les... Verwerfungen.
Oui, dans les failles, dans les failles.
Dans les failles, oui. Et on a le problème chez nous, c'est les Vosges d'un côté, le forêt noir de l'autre côté qui pousse. Et dans les deux structures, on a un bruch.
Une rupture.
Et les Suisses ont constaté que chaque fois qu'on fait des trous dans les ruptures, on a des grands problèmes. Peut-être il faut voir à ça.
Oui. Et
pour arrêter, je vais vous dire le dernier mot. La politique ne va pas vous aider. Vraiment pas. Ça veut dire... Akel, c'était la première fois qu'une ville a pris le juridique pour lutter contre une concession. Mais il faut savoir, c'était le temps des élections. Et je ne crois pas que quand on va faire ça une deuxième fois, maintenant, ça ne va pas marcher. Alors, les citoyens, il faut lutter, il faut faire des organisations, et il faut aller sur la rue, demander aux télévisions, aux stations radio, et lutter pour vous. Nous, on a fait une association, et on a dans un demi-an, on a 700, presque 800 membres. Et on essaie sur toutes les possibilités, la presse, la télévision, de lutter contre ces projets. Et peut-être ça va nous aider que chez vous, vous allez faire le même. Parce qu'on a un problème européen, que M. Brouin, il a dit, on ne sait pas la direction qu'ils vont faire la trou. Si c'est sous le Rhin, si c'est dans la ville, on ne sait pas. Merci.
Bonsoir. Monsieur Brown, vous nous demandez d'aller à l'enquête publique. Mais moi, je dis stop. Stop, s'il vous plaît. C'est l'enquête publique qui doit venir vers nous, mesdames et messieurs. C'est eux qui doivent venir. Les décideurs, Foronge doit venir, la mairie doit venir, le préfet doit venir et nous expliquer ce qui va nous arriver. Ce n'est pas à nous de nous déplacer. Qu'est-ce que vous avez marqué dedans? Ah, je ne veux pas le forage dans le port au pétrole. Mais c'est ce qu'ils veulent. On remplit les feuilles comme ça. Non, c'est eux qui doivent venir. C'est eux, la ville. Madame Trottmann doit venir, celle qui a signé. Le préfet qui a signé, tout cela doit venir. Et je vous assure, j'ai l'habitude des enquêtes publiques, quand il faut qu'ils viennent, et ils doivent venir, l'enquête publique, il faut demander la réunion, et ils viennent. Et ils s'expliquent, parce que l'enquêteur public, il fait son boulot, et il l'interroge. Et tout ce que vous direz le jour de cette enquête publique sera marqué dans le papier, et les réponses également. Parce que quand vous marquez dans l'enquête publique les questions que vous posez, l'enquêteur public, il va dire ouais, les questions ont été posées. Mais il n'y aura pas de réponse. C'est en public que vous l'avez de faire. Et pas dire oh, une heure, ça suffit. Non, non, non. Ils doivent tous être devant la table. Foronge, la préfecture, ça veut dire, quand je dis la préfecture, c'est les ingénieurs. Hein, ceux qui disent que tout va bien passer, c'est nous qui décidons, c'est nous qui nous vous protégeons. Et la mairie, Madame Trottmann, qui est la présidente du port autonome.
Du port autonome, c'est exact.
Et M. Brown, et c'est pour ça que j'insiste, il ne faut pas demander aux gens de se déplacer. C'est l'enquête publique qui doit se déplacer ici.
Oui, mais soyez tranquille que nous demanderons une réunion publique, mais nous n'avons que très peu de pouvoir. Monsieur le maire veut...
De Brunsberg. De Brunsberg. Bonsoir, bonsoir tout le monde. À Obersbergen, nous sommes confrontés au même problème un peu plus tard que vous, parce que l'affaire du port au pétrole est un peu plus avancée. Et nous avons eu toute une série, donc je suis maire d'Obersbergen, conseiller communautaire, et invité depuis un moment à toutes les réunions d'information qu'a bien voulu faire et l'électricité de Strasbourg et Foronge. Et l'Arcus et M. Jund, etc., et l'Adréal. C'est un problème qui nous est un peu tombé dessus. Donc nous avons à Obersbergen deux sites où on doit forer, l'un sur le banc d'Egbolsheim à 100 mètres d'Obersbergen et très loin du centre d'Egbolsheim, et un autre sur le banc de Mittelhausbergen à 100 mètres d'Obersbergen également et très loin du centre de Mittel. Comme par hasard. Sur des endroits qui, a priori, stratégiquement, n'intéressent pas grand monde, en dehors de nous. En écoutant aussi bien l'électricité de Strasbourg que Foronge, la problématique est à peu près la même. Alors, il faut savoir qu'au départ, l'État français a donné des autorisations à deux sociétés, Foronge et Endura. Endura est une société qui a disparu. En fait, elle a vendu le permis qu'elle avait de forêt à l'électricité de Strasbourg. Donc, eux, ils ont fait de toute façon une très bonne affaire. Ils ont fait un dossier, ils l'ont revendu à l'ES. L'ES fait des expérimentations depuis longtemps à Soultz-sous-Forêt et à Rittershoffen. Expérimentations qui sont plus ou moins réussies. À Rittershoffen, il fore pour chauffer donc une usine qui est à 15 km. À Rittershoffen, on fore en rase campagne. On a convaincu les maires aux alentours que ça ne posait pas de problème. Et puis, bon, de toute façon, c'est en rase campagne, ça ne dérangeait personne. À Strasbourg, la problématique est un peu différente parce que déjà, on est une zone très urbanisée. Et qu'on a des réseaux de chaleur, et ce que vous aviez raconté tout à l'heure à propos des réseaux de chaleur Esplanade, Haute-Pierre, cité nucléaire à Cronenbourg, effectivement, il y a un intérêt, a priori, qui peut exister pour avoir une source d'énergie non peu polluante ou non polluante, pas très chère, quand on n'y regarde pas de trop près. Mais ce qui m'a frappé, c'était l'opacité qui existait autour de ces dossiers, et en particulier quand on écoute Fonroche. Alors déjà, il faut savoir que Fonroche est une toute petite société qui faisait des panneaux, qui fait toujours des panneaux photovoltaïques, qui appartient à un fonds de pension. Alors mon métier antérieur, j'étais dans la santé, où il y a énormément de fonds de pension qui sont actifs. Il faut savoir qu'un fonds de pension travaille pour 4 ans. Au bout de 4 ans, il revend sa société à un autre fonds de pension en faisant son bénéfice, etc. etc. Tous les 3-4 ans, ça change de fonds de pension et il y a toujours des gens qui font leur bénéfice au passage. Donc, ce qui m'avait tout de suite inquiété, c'était si Fonroche creuse, fait creuser par une société allemande, dès que la première goutte d'eau chaude viendra, ils vont le vendre à un autre fonds de pension qui, lui, va monter l'usine. Et puis, quand ça tournera, il y aura un troisième. Et le jour où il y a un souci, de toute façon, il n'y aura plus personne. On ne saura pas à qui il faut s'adresser. Et puis, deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que tous les gens qui étaient invités à ces réunions comprenaient plus ou moins bien cette problématique. Écoutaient ce qu'ils voulaient peut-être entendre, mais toujours de bonne foi. Je parle en particulier des maires, des communes qui étaient concernées. Et j'ai remarqué qu'en fait, très peu de gens s'étaient appropriés le sujet et avaient... tout le monde était un peu inquiet, il pouvait y avoir des tremblements de terre, mais ne s'était pas intéressé au fond du problème, comment faire pour... éventuellement s'opposer à ce projet ou s'assurer qu'il n'y ait vraiment aucun risque. Je voudrais juste dire en passant que je n'imagine pas un instant que les sociétés qui ont creusé en Allemagne et en Suisse aient pu dire aux gens, parce qu'il devait y avoir les mêmes associations d'habitants, pouvaient dire aux gens qu'il n'y a aucun risque.
Si, ils ont dit qu'il y avait aucun
risque. Pouvait ne pas dire qu'il n'y avait aucun risque. Donc, le risque existe toujours. Il y a des endroits où on creuse. Il semblerait que dans la région parisienne, on a creusé depuis 30 ans, mais la structure du sous-sol n'est sûrement pas la même.
Pas du tout.
Et on veut nous faire croire qu'ici, c'est pareil. Donc, j'ai été interviewé la semaine dernière par les dernières nouvelles. Il y a eu un article dans le journal hier, où on a rapporté mes paroles. Je crois qu'effectivement, il est très urgent d'attendre, de repousser ce projet. Je vais essayer d'organiser une réunion pour les maires de la CUS, y compris Strasbourg, hein, bien sûr, pour avoir une explication bien plus... fondamentale, scientifique et le plus large possible pour nous éclairer. Et je peux vous assurer que les politiques sont conscients de la problématique et n'ont pas du tout envie d'être ceux qui vont faire trembler la terre à Strasbourg. On va essayer d'arriver à organiser cette réunion au mois de janvier, afin de mobiliser déjà les troupes au niveau des maires, des communes périphériques. Parce que c'est quand même nous qui allons devoir supporter des salles pleines de gens qui sont opposés au projet. C'est nous qui allons donner des permis de construire. C'est nous qui allons donner des autorisations de circuler aux camions qui vont faire trembler le sol. Donc ces autorisations, je pense qu'elles ne sont pas encore données. Bien que Fonroche pense qu'elles sont déjà acquises. Ça, c'est ce qui est frappant également. Alors c'est plus frappant avec Fonroche qu'avec l'Électricité de Strasbourg, qui est un peu plus prudent. Mais Fonroche pense que tout est plié, circulé, il n'y a plus rien à voir. Donc on ne peut pas accepter ces méthodes, et même le président de la CUS, je pense, ne les acceptera pas. Il l'a déjà exprimé en réunion en conseil de CUS. Donc il y a vraiment une prise de conscience, mais j'avoue, depuis peu, hein, ça fait peut-être 15 jours, qu'il y a une prise de conscience des politiques qu'il est urgent d'attendre. Voilà. Non, non,
pense...
Non, j'ai l'illusion de croire que ce n'est pas ça. Nous venons d'être élus il y a 6 mois, les prochaines élections, c'est loin.
Non, je vous remercie beaucoup de vos paroles. Je voulais vous dire que si nous pouvons être d'une utilité quelconque dans votre formation des maires, nous sommes à votre disposition. Et je pense que nous ne sommes pas les derniers à être responsables de la prise de conscience qui se fait actuellement dans la CUS. Je crois qu'on va encore prendre 2-3 questions.
J'ai une question très...
Qui c'est qui a le micro ?
Oui, j'ai une question très concrète.
Attendez, on va laisser la dame. Je ne sais pas où elle est d'ailleurs.
Je suis là. Ah. J'ai une question très concrète. Comment fait-on pour répondre à une enquête publique ? Moi, j'ai jamais fait.
Il suffit d'y aller. Il suffit d'y aller.
C'est
d'écrire.
Où ? C'est où ?
Ce sera vraisemblablement à la mairie. Je ne sais pas si ça sera à la mairie de la Robertso.
Dans les mairies de quartier.
La mairie de quartier ou ailleurs. Mais ce sera marqué dans les journaux.
Oui.
De toute façon, attends, après. Monsieur là-bas.
Oui, bonsoir. Écoutez, je crois que une grande partie des gens qui sont là, sont opposés au projet, d'après ce que j'ai pu comprendre au vote tout à l'heure. Mais l'enquête publique, c'est très bien. Je crois qu'il faut y participer, bien entendu. Mais il ne faudrait pas que nous nous démobilisions par la participation à cette enquête publique. Absolument. Par le passé, dans d'autres associations, on a constaté que les enquêtes publiques il n'y avait pratiquement que des gens qui ne voulaient pas du projet et pourtant les projets ont eu lieu. Donc, maintenant, il faudrait réfléchir, je pense, très vite à des actions beaucoup plus pragmatiques, pratiques, pour qu'on puisse aider, je dirais, entre guillemets, nos élus politiques à prendre des décisions courageuses. Parce que sinon, c'est vrai qu'on a compris qu'il y avait quand même des enjeux financiers lourds. Et il faut vraiment, et là il faudrait que chacun, quand on va rentrer dans son quartier, parce qu'il y a très peu de gens qui sont au courant, qu'on informe tous nos voisins pour un peu créer une mobilisation, parce que ça met du temps à se mettre en route, pour que si un jour, j'espère qu'il y aura des actions qui seront menées pour bloquer des routes, pourquoi pas, occuper des terrains, il faut qu'il y ait du monde, parce que le pire, c'est de faire une manifestation et qu'il n'y ait pas grand monde, parce que cette fois, c'est un chèque en blanc qu'on signe, hein.
Merci. Alors, on va essayer de terminer. Monsieur le maire demande rapidement la parole. Monsieur avait demandé la parole après, monsieur.
Je voulais juste rajouter un mot. C'est que dans les affaires financières que vous avez évoquées, ce qui est très important, c'est que la société Fonds-Roche va aspirer beaucoup d'argent par le FEDER, donc les fonds européens. Il me semble qu'ils prennent à peu près 10 millions d'euros par forage. Donc, évidemment, dans vos calculs que vous avez fait tout à l'heure, on ne tient pas compte de tout cela. Donc, ces fonds de pension sont souvent des aspirateurs à subventions européennes, où il n'y a pas trop grand monde qui regarde à quoi ça sert. Deuxièmement, ce dont on ne tient pas du tout compte dans les coûts que vont représenter ces forages, si on veut les faire, c'est comment acheminer l'eau chaude dans les réseaux de chaleur. Imaginez qu'on creuse à Oberhausbergen et qu'on va chauffer l'esplanade ou Haute-Pierre. Il va falloir casser je ne sais pas combien de routes, peut-être des trams, etc. Ça ne dérange personne, ça. Oui, mais pas depuis la périphérie.
Monsieur a demandé depuis un moment la parole, si on peut lui passer un micro.
Bonjour, je suis Philippe Alter. Je suis venu parce que je suis un habitant de la Robertso. Par ailleurs, je suis scientifique en biologie moléculaire au CNRS. Et en fait, je suis venu ici pour avoir des renseignements parce que j'ai vu que les choses qu'il y avait dans les DN. Et puis que... Donc j'ai trouvé très intéressant le développement que vous aviez pour ce qui est du détail dans lequel vous étiez. Mais je suis un petit peu perplexe par la manière dont les gens... en réceptionner toutes les informations que vous avez données, en n'en prenant que la partie la plus catastrophique systématiquement à toutes les étapes, alors qu'en fin de compte, il faut juste faire attention à une chose, c'est le côté un petit peu rationnel auquel je m'attache toujours à faire attention, c'est qu'on n'est pas toujours en train de basculer dans la situation la pire, surtout celle la pire qu'on peut imaginer, parce que vous et moi, on est capable d'envisager toutes les catastrophes les pires. Par exemple, il n'existe pas de situation idéale. Aujourd'hui, les cuves, je vais prendre deux exemples, seulement deux exemples. Aujourd'hui, les cuves dont je vous accorde tout à fait qu'elles sont dangereuses à cause des quantités qu'il y a dedans, ça ne fait pas d'aujourd'hui qu'elles sont dangereuses, et elles ne sont pas dangereuses seulement à cause des tremblements de terre. Dans votre exposé, on pourrait croire qu'en fin de compte, rien que le forage qu'il va y avoir, ce sera le seul élément qui va provoquer et qui va provoquer les tout premiers tremblements de terre auxquels ces cuves vont être confrontées. Il se trouve que ces cuves sont tout le temps confrontées à des séismes et que la question, c'est, et elles sont confrontées à des séismes forts au point que des Strasbourgeois ont déjà vécu des séismes il y a moins de 10 ans ou il y a à peu près une dizaine d'années. Tout le monde, ou à peu près, s'il était à peu près réveillé vers 10h, 10h30 le soir, a pu sentir un séisme qui était très, très, très notable. Et les cuves n'ont pas eu de problème. Et c'est tout Strasbourg qui a été secoué. Et c'est juste pour dire que dire qu'il y a un micro-séisme, ça ne, et que ces cuves vont être soumises à, ou à un séisme même sensible par l'homme, ne veut pas dire qu'elles vont provoquer une catastrophe imminente et même immédiate et la plus grosse catastrophe imaginable. C'est juste pour dire que ce n'est pas dans un paysage de ciel bleu et d'idéal de sécurité que les choses évoluent. Et j'ai un deuxième exemple. Vous avez évoqué à un moment donné une réalité tout à fait juste. C'est le fait que quand on creuse et qu'on a de l'eau qui sort de zones profondes, qu'il y a du radium et du radon. Il se trouve que ce n'est pas non plus quelque chose qui n'existe pas dans la vie ordinaire. Dans le premier mètre carré de jardin, toutes les secondes, il y a l'équivalent de 10 000 becquerels de radon qui sortent du sol dans toute la Robertsau.
Alors,
et donc c'est juste pour dire qu'à un moment donné, parler de choses que les gens n'ont pas l'habitude de savoir comme étant existantes font une sorte de surdramatisation qui fait que, par exemple, du moment qu'on parle des cuves, ça veut dire qu'à la moindre petite secousse, elles vont s'enflammer. Je trouve que c'est abusif. En revanche, tout est dangereux. Il n'y a pas d'activité qui ne le soit pas. Et si on devait obéir systématiquement au principe de si c'est ne serait-ce que envisageable que sous une très faible probabilité il y ait un danger, vous et moi, on n'oserait même pas sortir de notre lit.
Je vous remercie, mais je voudrais vous répondre. Et vous, comme scientifique, vous dites que vous êtes scientifique, je suis très étonné de ce que vous venez de dire. Le radon, effectivement, ça existe partout. La limite de tolérance, si je me souviens bien, c'est 100 microgrammes par mètre cube. À Landau, à certains endroits, on a pu mesurer 1800 mg par mètre cube. Donc, ce n'est pas la présence de radon, c'est la présence 18 fois supérieure au seuil de tolérance. En ce qui concerne la solidité des cuves, vous avez raison, les cuves résiste à un certain nombre de micro-séismes chaque année. Mais là, on risque de les multiplier. Je rappelle qu'à Soultz, en 2010, il y a eu 400 micro-séismes dans l'année. Alors, il y a des choses qui résistent à 1, 2, 3, 4, 5, 10 micro-séismes. Mais quand il y en a 400, ce n'est pas certain. De plus, Je parle de micro-séisme. Monsieur, écoutez-moi, j'ai parlé de micro-séisme. Je n'ai pas parlé de séisme, j'ai parlé de micro-séisme. En dessous de 2. Et en plus, alors, je rajouterai encore quelque chose. Nous sommes dans une zone dangereuse. Depuis 3 ans, nous nous battons contre le PPRT. Nous avons montré que le PPRT avait été manipulé et ils utilisent des raisons pour supprimer un certain nombre de risques qui n'ont pas à être utilisés parce qu'elles ne sont pas correctement réglementées. En plus, ils ont fait manipuler un logiciel de simulation. Depuis 3 ans, nous avons exposé nos arguments scientifiques et personne n'a été capable de nous répondre. Donc, c'est une zone extrêmement dangereuse d'ores et déjà. Le préfet l'a souligné depuis un certain nombre d'années. Est-il raisonnable de rajouter des risques? C'est ça le problème. Le problème, il est on ne peut pas rajouter indéfiniment des risques parce que là, on verra que ça va sauter.
Bon, maintenant,
oui.
Maintenant, vous avez fait votre opinion, j'espère. Pour répondre à madame, puisque c'est important de savoir quand et comment on peut agir, vous pouvez vous renseigner, soit nous on vous renseignera, de toutes les façons, ne vous inquiétez pas, on va faire paraître l'annonce de l'enquête publique. Et si vous voulez vous renseigner auprès de l'ADIR à n'importe quel moment, on peut vous renseigner ce qu'il faut écrire et comment il faut le faire. Généralement, les enquêtes publiques, elles sont éditées sur le site de la mairie de Strasbourg, de la communauté urbaine. Vous pouvez donc y aller et consulter régulièrement les parutions. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est généralement, je dis bien généralement, mais ça dépend des opérations ou des enquêtes publiques, généralement, c'est à la place de l'Étoile. Vous allez là-bas, à l'accueil, ils vous diront quelle salle et vous pouvez y aller quand vous voulez. Voilà.
Alors, je voudrais donner la parole après, si vous voulez, parce que Emmanuel Jacob, qu'il faut remercier pour la présentation graphique de cette soirée, voudrait nous dire quelque chose.
Donc Emmanuel Jacob du blog de la Robertso, et dès qu'avec Jean-Daniel on a commencé un peu à travailler sur le sujet, moi je me suis renseigné et je me suis permis de téléphoner à Adréal. Et je pose une question simple, peut-on poser un forage pétrolier au cœur d'un PPRT? La question est simple, à ce jour. J'attends encore une réponse. Et je dis que j'ai tenté de contacter Alain Yund. Vous parlez d'enquête contradictoire, monsieur. Alain Yund, qui est donc responsable à la communauté urbaine de Strasbourg, entre autres de ce projet, jamais répondu. Jamais de rendez-vous, jamais de réponse à mes nombreuses sollicitations, et Dieu sait si j'étais patient. Je crois que ce problème pose un défi démocratique. Et là, je pense que les élus doivent ouvrir leurs écoutilles grandes. Parce que quand on les interpelle, Thierry Ross, on ne les prend pas de haut. On ne prend pas les citoyens de haut. On les écoute et on est partenaire des citoyens, on est auprès d'eux. Et ce que fait l'ADIR ce soir, ce que fait une association de citoyens habitants de la Robertso, avec des opinions très diverses, ce qu'ils sont capables de faire, je ne vois pas pourquoi une ville comme Strasbourg, une communauté urbaine de Strasbourg, une préfecture, l'Adréal, ne peut pas le faire. Et quand j'entends que l'enquête publique risque de commencer en janvier, c'est-à-dire demain, comment se fait-il qu'il n'y ait pas une simple réunion publique pour exposer ce projet, y compris au moment où on envisageait ce projet, y compris au moment où on a vendu ce projet? J'ai eu le directeur des domaines du port autonome qui n'y trouve rien à redire, qui se protège derrière les rapports de l'Adréal, l'Adréal qui refuse de répondre. Et là, il y a un vrai déficit démocratique. On peut dire tout ce qu'on veut sur l'opportunité du projet, trouver des choses formidables, Monsieur Walter, trouver des choses formidables sur ce projet. On attend toujours des réponses. Et aujourd'hui, aucune personne vient devant nous pour exposer et entendre ce qu'on va dire. C'est vrai que les enquêtes publiques, c'est souvent perdu d'avance et que la mobilisation de la dire est importante. Merci à vous d'être là ce soir, en tout cas.
Bon, alors, on va encore donner deux, trois réponses. Alors, Madame Colère voudrait intervenir et ensuite...
Rapidement, pour dire que moi, je vous ai entendu, je relayerai naturellement cette énorme inquiétude encore, que je pressentais. Et il me semble effectivement que la question doit venir à la Robertso, sur la place publique, et qu'une grande réunion avec l'ensemble des parties prenantes est nécessaire. voilà. Roberto plus Esplanade, puisqu'effectivement, il y a... Voilà. Ouais. Pour le reste, effectivement, au vu de tout ce qui s'est dit, moi, je peux difficilement me dire favorable à un tel projet, mais c'est... Je n'ai pas encore étudié suffisamment la question. Vous avez donné un certain nombre d'éléments. Je continuerai, moi, à aller à la pêche aux informations et à essayer de prendre de plus en plus d'informations. Merci.
Oui, alors, Bonne. Encore le docteur Ferzorf, et puis... Ah non, après, on va arrêter.
Merci, Jean-Daniel. Arnaud Ferzorf, de l'association Tivoli-Vaken. On s'est beaucoup instruit, on a appris beaucoup de choses. Moi, je voudrais parler tout à l'heure, on a parlé de mutualisation des futurs types de chauffage sur la ville, sur la CUS. Je vous rappelle qu'au conseil municipal de lundi prochain va passer la modification du POS pour la construction de cette future centrale thermique de 20 MW qui va se faire au Vaken, derrière le lycée Kléber. Et je suis très inquiet parce que vous parliez de suppression de DSP. Or, celle-ci, ce sera une DSP pour 30 ans. Donc, je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, ce serait bien qu'on en parle à plusieurs. Il y a quelque chose qui se passe de ce côté-là. Et quand on sait qu'une DSP, s'il y a un problème, une fois que la centrale est construite, il n'y a plus personne au bout du fil. La deuxième chose, je crois que ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on a du mal, Jean-Daniel, tu disais, on a du mal à avoir le dossier technique. Pourquoi pas imaginer de faire un collectif avec un certain nombre d'associations? Ça ne concerne pas uniquement le quartier de la Robertsau, ça concerne beaucoup de gens. Je vous remercie.
Merci de cette intervention qui, je pense, encore le président de la DIC, si vous voulez, dernière intervention.
Merci beaucoup. Je salue tous les collègues et amis de la DIR et également ceux de la SER qui sont là et qui, je crois, sont également opposés au projet. Nous sommes un certain nombre ici de représentants des quartiers voisins et amis. C'est vrai que nous sommes très attentifs. On a écrit sur le sujet également, inquiets aussi. Et sans rentrer, on a suffisamment discuté des questions techniques ce soir. Je ne vais pas en ajouter. Simplement, j'aimerais dire qu'il me semble qu'à un moment donné, est-ce que la qualité des élus ne serait pas la qualité première dans ce contexte-là, ne serait pas de faire preuve de bon sens et de se dire, c'est vrai qu'on ne peut pas prédire aujourd'hui ce qui va se passer, on ne peut pas dire qu'il y aura une catastrophe, mais on ne peut pas non plus dire qu'il n'y en aura pas. Et donc, est-ce que les élus ne devraient pas tout simplement dire, eh ben non, c'est pas possible, on est dans une zone Céveso, un port au pétrole qui est enclavé dans l'agglomération de Strasbourg-Kehl, avec un habitat dense, et donc il y a des conclusions rapides qui peuvent être tirées, me semble-t-il. Voilà, simplement faire parler le bon sens au-delà des considérations techniques. Merci.
Je vous remercie beaucoup pour vos interventions à tous et à toutes. Je retiens une chose, c'est que début janvier, nous essayerons de réunir les représentants des associations des quartiers et pour voir le mouvement que nous pourrons initier. Merci et bonne soirée.